Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
On est tous perdus. On s'accroche à des idéaux. Des illusions, dit maintenant mon père. Après y avoir cru toute sa vie. Nos amis meurent. Disparaissent. Les autres s'en vont. Moi j'ai peur pour Raja. Il m'a juré qu'il a rendu ses armes. Mais chaque fois qu'on se sépare, je me demande si on va se revoir. Ou s'il va aller se battre en secret. Et qu'on va me raconter qu'il est mort. Et toi, Lisa, où tu es? Tu reviens quand? Je te sens tellement loin parfois. Tu me manques.
Johanna, Hadji Thomas et Khalil Jorej sont ce soir nos invités à l'occasion de leur nouveau film dont vous venez d'entendre un très court extrait intitulé Memory Box qui sort sur les écrans demain. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Blondie. I'm gonna win ya. Seriez-vous devenu artiste et l'un et l'autre si vous n'étiez pas tombé amoureux? Je pose d'abord la question à la fille, c'est-à-dire à Johanna.
On n'aurait pas fait ce parcours-là, ça c'est sûr. On aurait peut-être écrit, pour ma part, je fais du cinéma, mais pas comme ça, sûrement pas.
Non, et vous, Khalil?
Je crois pas. Notre travail, c'est un projet de vie. C'est au centre d'un mode d'être au monde, presque. Donc, je crois pas.
Que vous avez fabriqué et tissé par l'amour.
Oui, et par des rencontres, des ruptures. Johanna a commencé à étudier, elle a fait Sciences Po avant. Et moi, j'ai étudié le droit. Puis moi, je suis allé au procès de Klaus Barbie. Et là, j'ai décidé que je ne ferais plus du droit.
Mais pourquoi?
Je n'avais pas du coup compris la stratégie de la rupture. Je trouvais qu'entre la justice et le droit, il y avait un gouffre abyssal et je n'avais pas supporté Vergès à l'époque. Et ça m'avait vraiment éloigné de quelque chose dans lequel j'avais grandi, qui était le...
Qu'on puisse plaider pour un criminel, vous avez
oui, à l'époque, j'étais bien plus romantique, peut-être. Et maintenant, je comprends que même que la procédure peut sauver une démocratie. Mais à l'époque, je trouvais que les outils et la rhétorique étaient insupportables.
Seriez-vous devenu artiste, performeur, cinéaste si vous n'aviez pas vécu à Beyrouth, Johanna?
Sans doute pas. Parce que je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup façonné quand même, cette adolescence béroutine. Et quelque part, en retrouvant ces cahiers qui sont au centre de Memory Box, je me suis rendu compte que écrire tous les jours à cette amie, comme je l'avais fait, m'avait fait écrire tout court et commencer à raconter des histoires et à imaginer des choses. Donc je crois que ça a été quand même au centre, la séparation et ce que la guerre a fait de chacun d'entre nous a été quand même au centre de mon travail.
Khalil?
Ah non, je n'aurais sûrement pas. Je crois que je suis le fruit de certaines situations, de certaines conjonctures. On n'a pas étudié l'art ou le cinéma. C'était pas quelque chose qui... où on grandit avec cette idée qu'on va devenir artiste ou faire des choses. C'est venu véritablement comme une réaction presque chimique à des situations qui étaient des situations qui sont nées des après-guerres, qui sont nées des peurs que ça ne puisse recommencer, des peurs que on de notre difficulté à croire à ce qu'on nous racontait, ce qu'on voyait, à cette relation à la transmission qui a hanté tout notre travail. Et donc en venant d'un parcours et d'un lieu où la discontinuité, la rupture est quelque chose qui est malheureusement au cœur de nos existences, c'était ça qui nous a poussé sans doute à commencer à travailler.
C'est donc la fêlure, la cassure, l'absence de mémoire collective qui vous ont guidé, et ce depuis le départ. Ça fait maintenant 30 ans que vous faites des films magnifiques et des expositions importantes à travers le monde. Et tout a commencé finalement par ce qui est soi-disant le plus évident, mais peut-être le plus difficile, savoir regarder. D'ailleurs, un de vos films, qui a été présenté au Festival de Cannes il y a quelques années, s'intitule « Je veux voir ». Mais qu'est-ce que ça veut dire, regarder, Johanna?
C'est une vaste question, effectivement. Nous, ce qu'on donnait à voir, ça a été ce qui nous a occupé énormément, disons. Donner à voir quelque chose, des images, des représentations auxquelles on peut croire, qui nous ressemblent. Parce que la première réaction qu'on avait avec Khalil quand on a commencé à faire des images, c'est on veut produire des images qui émanent de nous, qui émanent du lieu d'où on vient et qui nous ressemblent plus que les images qui sont plaquées sur nous, d'autres images qu'on ressentait de façon plus orientaliste ou cliché. Et donc faire des films, raconter des histoires, c'est aussi raconter nos histoires tenues secrètes. Ces petites histoires qui en fait en disent très long sur le pays, sur nous-mêmes, sur nos communautés, sur nous en tant que sujet, et qui peuvent nous aider peut-être à devenir justement des individus dans des sociétés très communautaires où la famille, la religion a énormément de poids encore. Donc regarder et donner à voir, voir et donner à voir, c'est aussi pour nous, c'est regarder des représentations différentes et développer, construire des imaginaires qui vont nous permettre de voir.
Mais faire une image, comment faire image quand on vit dans un pays qui justement est à moitié détruit et où la ruine est omniprésente, Khalil?
Bah, la ruine, ça, c'est ce qui nous a poussé peut-être à commencer à travailler. Parce que la ruine, c'est quelque chose qui est censé... on parle de ruines modernes, d'accord? Donc ce sont des ruines qui sont censées être éphémères, puisqu'elles sont ou destinées à être détruites ou à être construites. Donc on enregistre, on documente au début, on est témoin de ce qu'on sent va changer. Donc, et en même temps, c'est une façon de s'exposer dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que la ruine va nous obliger à aller l'enregistrer, la documenter, et en même temps s'en protéger. C'est une violence qu'on va chercher, et en même temps dont on doit se protéger par les outils qu'on va utiliser, que ce soit le crayon ou la caméra. Ce sont des boucliers, mais en même temps, c'est ce qui va être le prétexte pour s'y confronter. Et s'y confronter dans tous les sens, parce que ça va nous constituer, ça va pas nous définir, mais ça va nous constituer, nous structurer.
Vous dites, oui,
le côté, Johanna, pardon, éphémère aussi de la ruine, c'est qu'on savait qu'elle allait disparaître et il fallait garder une trace. Donc, la première chose, effectivement, qu'on a fait au début des années 90 avec Khalil, c'est faire des images, beaucoup, beaucoup d'images, une quantité vraiment très importante d'images, parce qu'on savait que ce qu'on était en train de voir, c'est-à-dire les traces des violences, allait disparaître. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était pas forcément de documenter seulement la violence, mais de voir comment la violence affecte l'image, affecte les représentations, les histoires, les récits. Ça affecte tout, en fait. Ça change toute notre façon de voir les choses.
Donc, au départ, votre travail a été une sorte d'inventaire photographique, et puis petit à petit, c'est devenu le support de l'imaginaire qui vous a permis de faire des films, mais des films qui sont à l'extérieur de tous les clichés. Je pense que ce qui est très important à l'intérieur de votre cinématographie, c'est que il fallait absolument éviter tout ce qui était stéréotype. Et je crois que un grand intellectuel vous a guidé dans cette démarche d'artiste, à la fois en tant que cinéaste et en tant qu'artiste, c'est Édouard Saïd. Je vous propose de l'écouter, Édouard Saïd, qui va nous expliquer comment l'Occident a créé un Orient aux caractéristiques fixées, et fixées justement par les yeux des Occidentaux, ce contre quoi vous allez vous battre tous les deux. Je vous propose d'écouter la voix d'Édouard Saïd. C'est une archive INA de 1978.
J'ai été frappé par la constance et la cohérence des images et des représentations de l'Est ou de l'Orient, comme je l'appelle. Dans beaucoup d'éléments de la culture européenne, des peintures françaises du 19e, comme Jean-Léon Gérôme par exemple, ou des romans, comme ceux de Flaubert, de Disraeli, mais aussi des universitaires, des linguistes, des historiens, des anthropologues et des sociologues. Tous ces éléments ont contribué à créer une image unifiée de l'Orient, avec des caractéristiques fixes qui reviennent tout le temps. La sensualité, la tyrannie, le luxe, l'espoir, la cruauté. Alors, j'ai voulu montrer comment ce portrait collectif de l'Orient a émergé au 19e siècle et est devenu un ensemble cohérent. Et je l'ai relié, et je crois que c'est un des éléments qui ont fait polémique. Je l'ai mis en relation avec la puissance de l'Europe. Ce que je dis, c'est qu'en réalité, l'Orient n'existe pas. L'Orient est bien plus compliqué, plus varié, et surtout bien plus détaillé que toutes ces généralisations basiques.
L'Orient n'existe pas. Vous approuvez cette affirmation et cette pensée profonde d'Édouard Saïd ? Johanna?
Oui, bien sûr. L'orientalisme, le livre que Édouard Saïd a écrit, a été notre livre de chevet quand on était jeunes. Et nous avons fait une œuvre qui s'appelle Beyrouth, le cercle de confusion, pardon. Et dans le cercle de confusion, c'est une image de Beyrouth découpée en 3000 morceaux, collée sur un miroir. Et quand on peut, le spectateur peut prendre un fragment de l'image et quand il la retourne, c'est écrit Beyrouth n'existe pas. Donc c'est un peu la même histoire.
Mais là c'est une référence lacanienne à la femme qui n'existe pas. Dans le sens où Édouard Saïd, dans son travail extraordinaire sur où il réétudie la culture occidentale. Il montre à quel point elle a structuré les formes de pouvoir, ont structuré des modes de représentation et de savoir. Donc l'Orient n'existe pas dans le sens qu'il n'est pas essentialisé, il n'a pas de définition préétablie, et que c'est au contraire à réfléchir dans ceux qui le regardent, que le pouvoir est dans celui qui regarde, non pas dans l'objet regardé.
Vous avez commencé votre travail de cinéaste tous les deux en faisant des films sur votre propre terre, votre propre pays, sur Beyrouth bien évidemment, sur les représentations morcelées de Beyrouth, sur la mémoire collective. Ce film qui sort demain sur les écrans s'inscrit dans une continuité à la fois mémorielle, artistique et, si j'ose dire, sensuelle, parce que vous convoquez beaucoup la sensualité, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs, mais vous avez fait aussi des films sur l'histoire et la mémoire du cinéma. Et parmi cette mémoire du cinéma, il y a Jacques Tati. Je vous propose de l'écouter. Il va parler de son travail, de l'importance d'observer, comme par hasard. Nous allons l'écouter dans une archive du Masque et la Plume. C'était sur France Inter, le 30 mars 1968, la voix de Jacques Tati.
Où on a le temps d'observer, de regarder et d'écouter, où on ne l'a pas. Moi, il y a des spectateurs qui m'ont écrit des lettres vraiment charmantes et qui m'ont touché, m'ont dit « moi, je suis employé, je travaille dans un bureau, j'ai vu Playtime, j'ai un petit sourire quand mon président directeur général rentre dans le bureau. Bon, ben, ça me suffit, c'est ce que je demandais. » J'ai l'impression que on vit tout de même mieux en observant, vous voyez. Je crois qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'observer. Avant de faire Playtime, je me suis placé sur un pont de l'autoroute et j'ai vu les gens partir le dimanche en détente. Alors les gens n'ont plus le temps d'observer. Alors aujourd'hui dans Paris, autrefois les titis observaient, ils se promenaient en bicyclette, ils sifflaient, ils regardaient. Ils n'ont plus le temps parce qu'il faut... Alors, il n'y a plus que les agents qui ont le temps d'observer parce qu'ils sont là. Ils sont dans un carrefour, ils font juste un petit signe avancé et ils regardent et ils finissent par avoir de l'esprit. Je vais voir les matchs de football avec les populaires parce que j'ai un bon dialogue, les titis ont un dialogue merveilleux aux populaires, tout ça. Bon, je crois que les populaires ne cherchent pas, ne décortiquent pas Playtime, et je crois qu'ils observent un petit peu mieux dans le fond. Je crois que l'erreur, c'est justement de ne pas avoir le temps dans un restaurant. Moi, je ne m'ennuie jamais à une terrasse de café. Parce que vous pouvez me donner rendez-vous et avoir un quart d'heure de retard, je vous attraperai pas. J'ai peut-être vu le meilleur film de la semaine. Alors moi, j'essaie justement d'ouvrir une fenêtre et que les gens regardent. Je leur mets pas les points sur les i. C'est fait, je crois, sans aucune prétention.
Nous venons d'entendre la voix de Jacques Tati. Et vous, tous les deux, Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, vous avez fait un film qui s'appelle « Open the door, please ». Et qui est un hommage à Jacques Tati. Je crois que c'est l'un des rares films, peut-être le seul, qui a été tourné en France et non pas au Liban. Et c'est aussi un film qui fait partie finalement d'une définition de votre art cinématographique. C'est-à-dire, comme vient de le dire Jacques Tati, savoir observer, savoir faire le pas de côté pour que nous, spectatrices et spectateurs, on puisse voir ce qu'on n'a pas l'habitude de regarder, en fait, Johanna.
Oui, bien sûr, ce film, c'est parti d'un film plus vaste qui s'appelait Enfance, sur l'enfance des réalisateurs. Et quand on nous a proposé Jacques Tati, on a tout de suite dit oui. Parce qu'évidemment, il y a le côté différence qui nous intéresse. Il ne rentre pas dans le cadre, Jacques Tati. Il est différent. Le petit film qu'on a raconté, il y avait l'histoire aussi de la photo. Qui est présente dans ce film, mais effectivement, je crois que observer est une chose fondamentale dans notre vie et dans notre pratique tous les deux. La plupart des choses qu'on fait ou qu'on raconte sont des choses qui nous sont plus ou moins arrivées.
Comme dans Memory Box,
il y a une très grande sérendipité aussi. C'est un mot qu'on utilise de temps en temps pour dire qu'il se passe des choses justement qui ne sont pas de notre contrôle. Il y a un événement très important dans notre vie, c'est que en 2000, j'étais enceinte de ma fille. de notre fille avec Khalil, et j'ai dû m'allonger sur un lit. J'étais alitée pendant 4 mois, 4-5 mois, mais vraiment je ne pouvais absolument
cinq
pas bouger. 5,
dit le père.
5, dit le père.
Et le mari.
Voilà. Par contre, c'est une expérience qui était extraordinaire, parce que tout d'un coup, j'ai pu observer d'abord tout ce qui se passait chez les voisins, en face, et tout ce qui se passait dans ma chambre, et l'événement est devenu totalement différent. Les petites choses sont devenues un grand événement. Et ça nous a beaucoup questionné, justement.
Et vous en avez fait un film.
Tout à fait, qui s'appelle Don't Walk. Voilà.
Oui. Et vous avez tenu encore la caméra alors que vous étiez allongé sur votre lit, impossibilité de marcher, d'où le titre du film. Mais vous avez quand même filmé dans votre lit.
Oui, parce que c'était comme une fenêtre vers l'ailleurs, en fait. Et de cette maison, de ces fenêtres, en fait, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'histoires à raconter.
C'est un côté Hitchcockien aussi.
Oui, alors ça, c'est très fenêtre sur cour.
Mais il n'y a pas eu de crime.
Bah vous, Khalil, vous alliez chercher à manger, non?
Même plus, parce que
pour
c'était...
la future
en
maman.
Fait, c'est arrivé à un drôle de moment, parce que c'était au moment où on faisait la promotion de notre premier long métrage. Et donc, moi, j'avais acheté la première petite caméra qui avait un écran déporté, parce qu'avant on cadrait à travers le viewfinder, maintenant il y avait un écran LCD. C'est important ce détail, parce que je ramenais des images à Johanna qui jamais ne voulait les voir. Ça ne l'intéressait absolument pas, c'était un autre monde qui était un monde de l'intérieur et où on a changé d'échelle. En fait, toutes les questions de cinéma vont se passer ici, c'est qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe. Et c'est une mouche peut devenir un monstre. Voilà, c'est le petit événement qui arrive à créer du vivant, à rendre compte de ce qui nous anime, de ce qui nous meut.
On peut dire que votre cinéma est empreint à la fois d'un désir de nous transmettre des choses politiques essentielles et en même temps d'une intimité exacerbée. Vous donnez beaucoup de votre histoire personnelle tous les deux.
Oui, particulièrement dans le dernier film, dans Memory Box. Parce que Memory Box, comme on l'a évoqué, c'est un film qui est basé sur des cahiers, des cassettes, des lettres que j'ai envoyées à ma meilleure amie dans les années 80. Elle vivait en France, moi je vivais au Liban. Et donc on a échangé ça, cette correspondance. Et puis au bout de 25 ans, elle avait tout gardé. On s'était un peu perdu de vue, on s'est retrouvés. Et elle avait tout gardé, et moi aussi. Et là, à ce moment-là, on a échangé. J'ai récupéré tous ces cahiers. Et ces cahiers, quand on les a lus avec Khalil, on s'est dit, c'est une matière extraordinaire. Il y a tellement de détails et tellement d'intimes, justement. Des choses extrêmement intimes. C'est vraiment... On comprend pas les événements du Liban, mais on comprend très bien ce que c'est de les traverser et de les vivre pendant 6 ans, parce qu'on s'écrivait tous les jours. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, on va en faire le centre d'un film de fiction. Et un dialogue, justement, un peu comme dans Don't Walk, entre Khalil, qui faisait des photos à l'époque, dans les années 80, de la ville, mais moi qui écrivais et qui enregistrais des cassettes. Et tout d'un coup, dans ce dialogue, on livre beaucoup de nous-mêmes, parce qu'effectivement, ce sont mes vrais cahiers qu'on voit à l'écran, même si après, il y a des parties qu'on a réadaptées à la fiction. Et des photos, ce sont aussi les photos de Khalil qui sont soit vues telles quelles, soit réadaptées avec le casting du film. Donc, c'est vrai que cette intimité... On a eu besoin de la montrer, mais pas comme un documentaire où ça aurait été assez égocentrique, mais plutôt comme une fiction qui va raconter une histoire de transmission et à travers ses cahiers. Et je crois que l'intime, ça donne aussi une sorte de véracité, de quelque chose, tous ces détails, ça a fait la colonne vertébrale du film et des réminiscences qu'il y a dans ce film.
Alors, que veut dire regarder? Ça, c'est une des grandes questions qui vous obsède depuis que vous êtes devenu cinéaste et artiste. Mais que veut dire savoir? Et jusqu'où peut-on savoir? C'est une des grandes questions qui traverse ce film qui sort sur les écrans demain, Memory Box. Parce que sans raconter du tout, pour ne pas porter atteinte au plaisir qu'auront les spectatrices et les spectateurs de votre film, on peut simplement dire que il y a 3 générations dans votre film. Il y a une grand-mère, une mère et une fille. Et la fille va s'autoriser à ouvrir les cahiers de sa propre mère, alors que la mère ne souhaitait pas du tout que ces cahiers puissent être lus par sa propre fille. Alors jusqu'où va-t-on et jusqu'où peut-on aller dans les secrets de famille, Johanna ?
En fait, la jeune fille, Alex, s'autorise à le faire parce qu'elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est gardé. Il y a du mystère dans cette famille. Ce sont trois femmes seules et elle sent qu'on lui cache quelque chose. Et elle sent surtout que sa mère n'est pas toujours là. C'est-à-dire, elle est là, mais elle n'est pas présente à elle-même. Elle sent qu'il y a une rupture dans cette femme et elle lui dit, on ne partage rien. Donc, elle exprime les choses et elle va s'autoriser à fouiller dans cette boîte parce que c'est aussi trop tentant de se dire, il y a la vie de ma mère au même âge que moi. J'ai envie de savoir. Et elle ne pense pas plus loin que ça parce que elle, pour elle, c'est qu'elle va, elle le prend un peu comme si elle découvrait la vie de sa mère comme une héroïne de série qu'elle va suivre au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qu'on transmet? C'est la grande question qui nous a animés dans ce projet avec Khalil. Qu'est-ce qu'on transmet aux générations à venir? Qu'est-ce qu'on nous a transmis? Comment on regarde nos parents aujourd'hui et comment on est regardé par nos enfants?
Nous parlions de l'amour en début d'émission avec vous deux, mais on peut dire que l'amour aussi, il est omniprésent dans ce nouveau film. Et on peut dire que cet amour, donc manifestement c'est votre histoire, votre amour à vous deux, il a commencé sous des auspices de la sensualité, des boîtes de nuit, du plaisir, des copains, des nuits sans fin. Mais enfin des nuits où vous rentriez tard le soir, et notamment vous, Johanna, vous faisiez engueuler par vos parents. Vous, je sais pas, Khalil, si vous vous faisiez engueuler par vos parents, mais en tout cas, vous raccompagniez Johanna très tard dans la nuit sur votre petit scooter.
Moto.
Mais en tout cas, après les boîtes de nuit où vous dansiez le twist et le rock jusqu'à plus d'heures, eh bien, les nuits étaient traversées par le bruit des bombes.
Mais ce qui était extraordinaire en relisant, parce que on édulcore avec le temps les choses, mais en ayant accès à cette chronique jour par jour dans les cahiers de Johanna, on s'est rendu compte à quel point son intensité de vie était forte, c'est-à-dire à quel point elle était capable de mentir, transgresser les pour sortir alors que dehors c'est un déluge de feu, de se retrouver en boîte de nuit. Cette pulsion de vie.
Et ça, il a fallu le tourner pour que vous en souveniez.
Non, il a fallu.
Ou vous aviez tout dans la tête, comme dit le titre Memory Box.
On se souvient de certaines choses, mais elles sont transformées par le temps, elles sont enjolivées. La violence qu'il y a envers les parents, envers le monde, elle est édulcorée avec le temps parce qu'on a de l'affection, on a de la bien.
De quelle violence parlez-vous?
La violence qu'on fait et qu'on ressent. Parce que le temps nous a permis de survivre à tout ça. Et on a une certaine affection envers nos parents. Donc on a l'impression que la communication se passait bien. Mais en fait, non, elle ne passait pas.
Mais il y avait la violence de la guerre aussi.
Oui. C'est parce qu'on était
ça, vous l'aviez en partie oublié. L'amour avait pris le dessus.
On a l'impression que ça, qu'on a, comme on a survécu, on a une tendance à moins que ça nous traumatise. Bien sûr, on n'est pas en train de parler du traumatisme. Le traumatisme, c'est quand on n'arrive plus à en parler, quand on n'arrive plus à se le représenter, quand ça opère comme un gouffre. Et justement, il y a un des personnages est confronté à cette rupture qui fait changer les personnes. Mais les autres essayent de faire avec.
Je crois qu'on se souvient tous de cette violence. Tous les Libanais, si vous les mettez ensemble, ils vont tout de suite parler de la. Si on les lance sur le sujet, la mémoire est très très forte. Dans ce film, on sait que cette mémoire est forte, mais les détails qui font que justement on se souvient et l'intensité, comme disait Khalil, la passion qu'on mettait à chaque petite chose, c'est ça peut-être qu'on oublie un peu. C'est-à-dire ou en tout cas, elle n'arrive plus au premier plan. Et c'est ça qui nous re-questionne quand on voit nos enfants adolescents, c'est ça qui nous saute aux yeux tout de suite, leur passion très forte. Et quand on ouvre ces pages et qu'on lit, on se demande est-ce qu'on a été aussi à la hauteur de ce qu'on rêvait pour nous-mêmes. Et on le voit souvent dans le regard des enfants. Ils regardent leurs parents en se demandant quels adultes ils sont devenus. Et je crois qu'on voulait beaucoup parler de ça aussi. C'est-à-dire que au-delà, cette compassion que les enfants peuvent ressentir envers leurs parents à un moment, quand on voit les fêlures de nos parents. Et je crois que c'est vrai qu'il y a cette mémoire qui est très présente, mais nous, on réquestionnait aussi l'histoire qui est partagée. Qu'est-ce qu'on partage, en fait, et qu'est-ce qu'on peut partager?
Comme si l'amour, et c'est peut-être vrai, d'ailleurs, dans votre propre vie, mais aussi dans le film, comme si l'amour était une protection et qui vous avait permis de survivre tous les deux, car dans cet amour, au milieu de cet amour et autour de cet amour, il y a beaucoup de disparus.
Il y a beaucoup de disparus, effectivement. Il y a beaucoup de gens d'êtres aimés qui ne sont plus là. Mais l'amour, c'est au sens large. C'est-à-dire, c'est aussi l'amour, l'amitié, l'amour en tant que tel, mais aussi l'amitié. Et aussi, et c'est ça qui nous aide et nous maintient en fait au Liban. C'est ce côté humain, ces amitiés très très fortes qu'on a tissées depuis l'enfance et qu'on garde jusqu'à aujourd'hui. Et cette solidarité du peuple. Et ça, on a beaucoup voulu le montrer aussi d'une certaine façon dans le film.
Même au présent, même après tout ce qui s'est passé, on voit encore cette solidité des relations et des affects qui se met en place, même après l'explosion et la catastrophe qu'on vit aujourd'hui.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Johanna Hadjitoma et Khalil Jorej, Let There Be Light, qu'on écoute d'ailleurs à l'intérieur de votre film Memory Box.
Arrivé là parce que je crois qu'à l'origine c'est moins l'État que le pays dans ses frontières et dans sa le pays qui a été construit en 1920 par la France, mais avec évidemment le soutien et le souhait d'une grande partie de la population libanaise. Ce pays a été constitué de manière un petit peu risquée. Le pari du Liban est un pari risqué. C'est un pays qui a été construit avec effectivement une mosaïque de populations qui n'étaient pas véritablement disposées à s'entendre et à vivre ensemble. Et beaucoup d'entre elles, enfin une partie de la population libanaise pendant longtemps a refusé d'admettre qu'elle était partie de ce pays, de cet État. Et cela a déclenché évidemment de diverses crises et notamment la fameuse guerre civile de 75 à 90. Donc il y avait déjà des conflits à l'intérieur même de la, dans l'idée de la, dans la conception que l'on se faisait de ce pays. Chaque confession, chaque communauté religieuse avait une vision très différente de l'autre quant à la définition de ce pays. Donc quand un pays, ses habitants ne sont pas absolument d'accord sur ce qu'il représente pour eux, c'est déjà à la cause de nombreux conflits. Ces conflits ont eu lieu. Ils ont abouti à la guerre civile qui a finalement réglé tous ces, on pensait régler tous ces comptes. Et à la sortie de cette guerre civile, c'est un autre problème qui s'est posé, c'est-à-dire que tous les problèmes qui étaient à la base de cet État pouvaient être enfin réglés clairement. Ils ne l'ont pas été, ils ont été remis sur la table et on est reparti. Mais pendant 30 ans, on était dans une espèce d'euphorie d'après-guerre, dans une espèce de syndrome du déni des véritables problèmes. Ce qui était le cas déjà d'ailleurs avant la guerre civile. Ça c'est une des caractéristiques de ce pays, c'est qu'il a énormément de problèmes dus à ce que j'étais en train de dire, à sa définition même, à la possibilité ou pas que les gens y vivent ensemble. Mais personne ne voulait voir ces problèmes. On refuse systématiquement, depuis la création du Liban, de voir qu'il y a des problèmes. Parce que c'est, comme vous l'avez dit, un pays qui offre une qualité de vie, une possibilité d'exister très agréable, finalement. Et donc, on n'arrête pas de remettre les problèmes, le règlement des problèmes à plus tard. On vit dans le déni du fait qu'il y a des problèmes. Et les problèmes, à un moment donné, nous sautent à la figure. Ils nous ont sauté à la figure une première fois en 75, et ils nous sautent à la figure une deuxième fois aujourd'hui.
Nous avons entendu successivement la musique de Charbel Haber et puis la voix de Sharif Majdalani, écrivain qui a essayé, et je crois peut-être réussi pour nos auditeurs, à récapituler les différentes métamorphoses de ce pays, le Liban, qui continue à s'enfoncer dans une crise à la fois financière, politique. On a encore entendu des nouvelles très récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, du gouvernement qui aurait empêché la justice de pouvoir aller enquêter dans des banques par rapport à des avoirs que détiennent des grands propriétaires capitalistiques au Liban. Votre film Memory Box, qui sort sur les écrans demain, Johanna G. Thomas et Khalil Joresh, s'intéresse beaucoup plus finalement à ce qui reste d'un temps révolu. Ce temps révolu, il est beau, il est plein, il est complètement empreint d'amour, de sensualité, de tendresse, d'érotisme, etc. Mais on sent la fêlure partout.
En fait, ce qui était terrible, c'est que nous, on a filmé en 2019. On a écrit ce film des années plus tôt, mais on a terminé juste
il est
avant.
Pas nostalgique, hein, je ne dis pas
alors,
ça.
Non, pas
mais
du tout nostalgique.
Il s'inscrit sous le sceau du bonheur.
Oui, en fait, on a voulu transmettre, disons qu'on a voulu transmettre cette pulsion, cette énergie de vie qu'on avait retrouvée dans nos cahiers de notre jeunesse. Et quand on a fini de tourner, il y a un l'effondrement vraiment du Liban, de sa structure très bien décrite d'ailleurs par Sharif Majdalani sur la façon dont le pays est géré par d'anciens chefs de milice en gros et des mafieux, des gens qui nos gouvernants n'aident pas à la cohésion de ce pays, disons, et donc tout d'un coup cet effondrement total du pays, il faisait tellement écho à ce qu'on avait vécu et ce qui était écrit dans les cahiers. C'est-à-dire, dans ces cahiers, ce sont des phrases qui sont dites dans le film, où on parle de la dévaluation de la livre qui a de nouveau lieu, où on parle de l'exil, où on parle de tout ça, des leaders justement qui sont corrompus et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et tout ça était présent comme si tout d'un coup, en voulant presser la touche rewind, on faisait une touche avance rapide. Et ça a été extrêmement perturbant.
En pire peut-être aujourd'hui.
En pire aujourd'hui, parce que d'une certaine façon, enfin, rien n'est pire qu'une guerre civile, mais disons, il ne faut pas l'oublier, et c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu faire ce film, pour montrer que non, il y a, et ce n'est pas une possibilité de vie, une guerre civile, ce n'est pas une possibilité. Il ne faut jamais y penser comme une solution. Mais de nouveau, c'est-à-dire que les divisions qui sont encore présente. Nous sommes arrivés à faire de l'art et du cinéma avec Khalil pour faire beaucoup de choses, mais aussi pour parler du fait que notre société ne se recomposait pas, ne se reconstruisait pas, qu'il a fallu à tout prix mettre cette période entre parenthèses, la période de la guerre civile, et ne plus jamais en parler. Or, nous, on n'a pas arrêté de la remettre sur la table et d'en parler pour dire qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on va se reformer, comment on va se réconcilier si on ne parle pas de ça. Et Memory Box, quelque part, il transmet ça. Mais il transmet ça au moment où tout d'un coup, on est de nouveau dans un effondrement et une explosion arrive qui détruit un tiers de la ville et une partie des décors du film.
Memory Box s'inscrit aussi dans une définition de votre cinéma, c'est-à-dire l'acte de mémoire, l'acte de résistance et le travail d'archives pour que les personnes vivantes puissent connaître ce qu'il en est de la réalité du Liban. Et là, je fais plus particulièrement allusion à vos deux films, car quand vous avez une idée, eh ben vous persistez. Vos deux films, Kiam, j'aimerais bien que vous parliez de ce cinéma que je dis mémoriel, militant, dans le sens où vous avez tous les deux décidé d'aller prendre votre caméra et d'essayer de rencontrer des survivants de ce camp qui s'appelait Kiam. Et plusieurs années plus tard, ce camp a été détruit, mais vous avez continué votre travail de mémoire. Pouvez-vous nous expliquer?
En fait, en 1999, donc le siècle dernier, on avait, pour des raisons de militantisme et de défense des droits de l'homme, combattu pour la fermeture de ce camp de détention qui était détenu par une milice supplétive d'Israël dans une zone occupée. Donc il échappait à toute juridiction. Et les gens qui étaient enfermés là-bas étaient enfermés sans jugement pendant des années. Il se trouve donc que nous, en ayant travaillé avec tout un comité pour leur libération et le démantèlement de ce camp, on a découvert une pratique que certains de ces détenus, surtout les communistes pour être franc, avaient pour pouvoir passer le temps. Donc c'était des personnes qui étaient détenues pendant ce qu'on a sélectionné entre 6 et 10 ans dans des cellules qui faisaient parfois, pour Sarah Pchar, 1 mètre par 1,50 m. Elle est restée 6 ans seule en isolement. Notre question était une question humaine au début. Comment elle a fait pour ne pas devenir folle, pour garder son humanité? On découvre petit à petit qu'ils ont produit des objets en totale clandestinité. Des objets qu'ils ont qualifiés eux-mêmes d'objets artistiques. C'est-à-dire qu'ils se disaient artistes le temps de leur détention, ils ne l'étaient pas avant, ils ne l'étaient plus après. Et c'est donc les conditions de production de certaines choses peuvent donner leur statut. À ce travail qu'on fait dans les années 99, par la suite le camp est démantelé, Israël va se retirer, le camp va être transformé en musée, et lors de la guerre de 2006, de nouveau entre le Liban et Israël, l'armée israélienne va faire 14 raids sur le camp et le détruire totalement. Il n'en reste rien. Et donc nous, on a pensé à ces anciens détenus qui avaient vécu dans cet endroit. On les a retrouvés, remis dans le même dispositif. Avant, on ne pouvait pas filmer le camp parce que c'était dans une zone occupée. Aujourd'hui, on n'a plus le camp parce qu'il était remplacé par, quand on voyait le camp détruit, on voyait les traces d'une guerre et non plus de la détention. Donc on leur a demandé comment faire, qu'est-ce qui reste de leur écriture. Il se trouve qu'ils étaient communistes et que leur histoire a été un peu laissée de côté au profit d'une autre histoire, d'autres vainqueurs. Et on s'est posé la question de comment garder une histoire, une mémoire de ces camps-là.
Donc le cinéma, c'est aussi enregistrer la voix de ceux que les autres considèrent comme des vaincus de l'histoire.
Sûrement. En tout cas, une histoire, comme je disais, tenue secrète, c'est-à-dire qu'on n'entend pas. C'est pas l'histoire officielle, c'est pas l'histoire écrite par les vainqueurs. C'est aussi garder trace, résister d'une façon différente, parce qu'on va entendre des voix de ceux qui ne sont pas entendus, ou voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude. C'est à nous aussi d'aller chercher ça.
En fait, on a une certaine conception du cinéma et de l'art qui est d'essayer de rendre compte de ce qui n'est pas forcément visible à un moment donné. On s'est intéressé comme ça aux figures de l'art, absence, à la latence, ce qui est là, mais dont les conditions de visibilité ne sont pas toujours réunies. Et donc on va essayer d'utiliser les pouvoirs de certains médiums, de certains outils comme l'art, le cinéma, pour essayer de donner cette sensation, ce côté sensuel.
Je vous propose d'écouter la voix de Dominique Hédé, que vous connaissez, qui est une intellectuelle libanaise, qui va essayer d'expliquer comment elle considère que, en ce moment même, et ce depuis la dernière tragédie qui se soit produite au Liban, c'est-à-dire cette explosion, il y a une sidération, ce qu'elle appelle de ce mot sidération intérieure, dans le cœur de chaque Libanaise et de chaque Libanais. C'était le 1er septembre 2020 et c'est une archive du 7-9.
Le lendemain de l'explosion est maintenant vécu à l'intérieur de chaque Libanais ou Libanaise. Il y a un état de sidération intérieure qui est un mélange de rage, de douleur, de mutisme parfois. J'ai beaucoup d'amis dans la partie de la ville qui a été fracassée et qui sont dans un état intermédiaire entre le « on ne veut plus vivre » et « on ne veut pas mourir », »,« on ne veut rien ». C'est un état que je n'ai pas connu durant les années de guerre et qui vous dit en peu de mots que c'est que les retombées de cette catastrophe sont terribles. Il me semble qu'il y a dans ce petit pays tout ce qui fait le monde aujourd'hui, c'est-à-dire un degré de contradiction, d'équation impossible, d'ambivalence au sens où les données qui cohabitent sont incompatibles au départ. Donc pour trouver une solution, une issue, pour être un peu plus modeste, ou même une moyenne solution, c'est extrêmement difficile. Quand on dit cohabitation, on veut dire sur un même, parfois sur les mêmes 10 mètres carrés, des mémoires, des histoires, des gens qui ont une représentation du monde très différente. Ceci étant, il y a aussi un lien commun, et c'est ce qui fait le Liban, et c'est ce qui fait le caractère ahurissant de ce pays, c'est qu'en dépit de toutes ces différences, qui sont communautaires, culturelles ou autres, il y a un point commun très fort, et c'est celui-là que beaucoup de gens essayent, alors qu'il est, de souder et d'en sortir quelque chose qui serait une synthèse et qui ressemblerait à une solution pour le reste du monde. Pour ma part, elle passe par la laïcité, c'est-à-dire par la fin du système communautaire. Ça ne peut pas se faire en un jour, j'en suis consciente, mais je crois aussi qu'en dehors d'une utopie telle que celle-là, qui n'est pas un idéal, l'utopie, c'est quelque chose de faisable. L'idéal, c'est un obstacle.
Nous venons d'entendre donc la voix de Dominique Aidé, c'était en septembre 2020. Aujourd'hui, donc en janvier 2022, votre film sort demain sur les écrans. Il parle de ce Liban d'avant, de votre amour. Il n'en parle pas du tout en termes nostalgiques, il en parle aussi en termes de futur, puisque la personne principale, en tout cas c'est ce que j'ai compris dans Memory Box, c'est la jeune femme. Elle a 16-17 ans. J'ai oublié de dire que dans ce film, comme dans chacun de vos films, Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, il y a une recherche de l'image. Vous utilisez beaucoup les images de l'ordinateur, les textos, les images recomposées, parce que notre mémoire, elle est faite de plein d'éclats d'images et de milliers d'images dans notre cerveau. Mais finalement, ce que dit Dominique Aidé, c'est l'espoir, c'est que quelque chose fait encore sens, vous qui vivez entre Beyrouth et Paris. Vous êtes entre, donc vous êtes ni à Beyrouth ni à Paris. La question s'adresse à tous les deux et ça sera la dernière.
On est à Beyrouth et à Paris, on va dire.
Et votre cœur, il est où?
La sidération dont parle Dominique, c'est quelque chose qui a été très présent pour nous, qui avons notre studio, notre maison tout proche, qui ont été totalement détruits. Moi-même, il m'a fallu un an pour me remettre de ce souffle qui nous a traversé. Je dis un an pour me remettre, disons pour me tenir debout, mais on ne peut pas se remettre. Il y a un avant et un après. Je pense que ce film raconte ça aussi, c'est-à-dire qu'il raconte les cycles continus de destruction et de régénération. Et c'est ce qu'on espère aussi pouvoir vivre au Liban.
Il y a quelque chose de l'ordre de la réactivation avec les outils d'aujourd'hui. Notre film réfléchit aux outils contemporain, c'est pour ça qu'il n'est pas nostalgique. Ces outils nous permettent d'appréhender le réel. La jeune fille, Alex, qui va utiliser son smartphone pour pouvoir voir ces documents et elle a besoin de cette interface pour pouvoir les découvrir. C'est une façon de reposer le paradigme de l'image autrement, mais avec les outils d'aujourd'hui. C'est une question de qu'est-ce qu'on... On n'est pas du tout judgmental, on n'est pas du tout moralisateur, on n'est pas du tout nostalgique sur le passé. On est passionné par le fait que, à partir du Liban, on essaye d'interroger les formes du récit et les enjeux de l'image contemporaine.
Oui, mais l'action se passe au Canada, donc la famille a choisi l'exil.
Mais ce sont des exils qui sont très particuliers, parce que quelque part la grand-mère est restée là-bas et la petite a grandi aussi au Liban, dans des Libans imaginaires.
C'est une réalité du Liban, l'exil. Il y a 4 fois plus de Libanais qui vivent hors du Liban. Et ça aussi, c'est ce va-et-vient qui fait que ce pays arrive aussi à respirer en ce moment. Mais c'est sûr qu'il fallait montrer aussi cette réalité. Mais il y a un retour, parce qu'en fait, les enfants re-questionnent les histoires de famille et obligent à se confronter à certaines choses et à parfois à revenir.
Merci infiniment, Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej. Je rappelle que votre magnifique film qui s'intitule Memory Box, il sera sur les écrans dès demain.
Quand je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans mon village du nord. La fièvre noire. J'aimerais te mordre plus tôt. Je suis au Labrador. Les murs me font perdre la vue et mon visage se tord. La fièvre noire. J'aimerais te mordre plus tôt. Close, j'ai le vague à l'âme.
Et c'est avec Laura Kahn, La fièvre noire, que nous allons nous quitter ce soir. Je rappelle que Memory Box de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej sort sur les écrans demain. Merci à François Saint-Jour qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à Marie Mougin, Marie Clément, Céline Villegas, Élodie Royer. Et merci bien sûr à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka pour Very Good Trip.